Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast presque mensuel sur la bande dessinée. Avec Thio, je suis One Eye Pied. Bonjour Thio, comment vas-tu?
En super forme, la fin des vacances, bientôt le retour du printemps, presque.
On a du soleil, c'est déjà pas mal. Donc, amis parisiens qui êtes encore sous la neige, nous vous souhaitons bon courage. Nous avons un petit soleil, nous sommes en train de siroter un sirop au bord de la piscine. Oui.
Lointaine la piscine quand même.
Elle est dehors. Donc aujourd'hui, nous avons un programme assez chargé, on va essayer d'aller assez vite. Je voudrais d'abord commencer par remercier les gens qui nous ont fait un peu de pub, que sont les geeks. Promis les gars, un jour j'essaierai de lire votre BD, je sais, j'ai honte presque de ne pas l'avoir lu, pourtant ça a l'air très très sympa. J'avais juste un peu peur que ça fasse un peu le syndrome bambou, tu sais, genre les profs, les fonctionnaires, les machins, les pompiers, etc. Et apparemment, ce que j'ai entendu dire, pas du tout, donc il va falloir que je me penche dessus. Je voulais aussi remercier Ginny du blog Bulle et Onomatopée, qui a parlé de ce podcast. Merci à vous. Je voulais aussi remercier tous nos auditeurs, donc merci papa, merci maman. vous êtes de plus en plus nombreux, pas
et,
mes parents,
mais nos amis aussi, nos amis, oui, nos qui amis. Se mettent à écouter et à télécharger.
Voilà. Bon, on a eu une trentaine de téléchargements dans le mois, ce qui est plutôt pas mal pour le dernier podcast. On espère que cette fois-ci, nous en aurons un bon millier, voire un milliard. Que dire ? Non, mais le serveur tiendra jamais.
Ouais, mais enfin, déjà, il faudrait juste qu'ils trouvent ça intéressant, ça nous suffirait en fait.
Peut-être qu'on est chiant, hein.
C'est ça.
Enfin, à force de faire tout à ce fort sujet, c'est sûrement le cas. Nous commençons de suite, Mathieu, avec Ultimate Requiem.
Donc, la fin d'Ultimatum.
C'est notre rubrique Easy Reading.
D'ailleurs, je suis allé chercher les derniers numéros à l'endroit où ils doivent être, hein, c'est-à-dire aux toilettes. Alors, Ultimatum Requiem, donc la fin, enfin, de notre cycle Ultimatum, un truc fantastique que nous avions commencé, je crois, lors du premier podcast.
Oui.
En disant que c'était du easy reading de chez Easy Reading.
Oui.
Et là, ça y est, on arrive à la fin du cycle.
De quoi ça parle ?
New York est entièrement détruit. Il ne reste rien. On va parler quand même de Jenna Jameson qui revient et qui découvre que Spider-Man est mort.
Et en fait, Spider-Man, c'était un héros.
Et là, Jenna Jameson pleure. Et on a vraiment un beau texte, je trouve. C'était sympa, le petit passage avec Jenna Jameson qui fait son dernier article.
C'est Jonah Jameson.
Jenna,
c'est autre chose.
Ah, excuse-moi.
Donc,
alors, lapsus énorme, donc là, ça s'est fait.
Allez, vas-y, enchaîne.
Ça ira bien avec... la bande dessinée de notre illustrateur de Black Summer.
Oui, on verra après.
On verra après. Donc, Jonah, qui nous fait un petit un dernier article justement sur la fin de. Ça va être compliqué. Hein. Sur la fin donc, justement de Spider-Man, où il avoue tous ses torts, qui lui dit voilà, que Spider-Man était vraiment le héros, qui était dénué d'intérêt, qui travaillait vraiment pour la communauté, qui travaillait pour tout le monde, et que lui a profité lâchement en mentant. En omettant des faits, enfin, voilà.
Bon, clairement, on a un épilogue des séries Ultimate, avec une histoire d'Ultimate Spider-Man, une histoire d'Ultimate Fantastic Four, et une histoire d'Ultimate X-Men. C'est de l'épilogue. Moi, je n'ai pas trouvé ça grandiose. Si le Spider-Man est toujours pas mal, je regrette de ne pas avoir suivi la série du départ, d'ailleurs.
Tout à fait.
Par contre, ils se sont un peu sortis les doigts pour nous choper des dessinateurs assez raisonnables. Les derniers n'étaient pas fantastiques. Là, clairement, bon, celui de Fantastic Four, c'est sympa sans plus. Je veux dire, le gars, il a un niveau moyen. Enfin, c'est l'école Topco.
Fantastic Four ?
Ouais.
Excuse-moi, on va le dire, il est pourri, quoi.
Non, mais là, c'est le coloriste qui fait un travail.
Enfin, disons qu'il y a quand même un travail d'équipe, quoi. Il y a un moment où il faut quand même que les mecs ils regardent aussi ce qu'il fait. Parce que, excuse-moi, mais ouais, là, la chose, elle a pris un sacré coup dans la gueule, quand même.
Oui, c'est vrai. Enfin, disons que quand on compare aux autres dessinateurs qu'on a pu avoir sur Fantastic Four, c'est vrai que ça fait un peu triste. Par contre, ils ont sorti le grand jeu pour Spider-Man avec Stuart Immonen pour le contemporain et tous les flashbacks, parce que c'est un épisode construit en flashback, dessiné par Mark Bagley, qui est le dessinateur historique d'Ultimate Spider-Man. Enfin, sur Ultimate X-Men, on a Ben Oliver au dessin. Qui a vraiment un dessin qui déchire
Qui
d'ailleurs.
déchire, là on peut rien dire d'autre.
Par contre, au niveau du scénario, je veux dire, bon, on enterre est mort, quoi, hein, c'est super intéressant.
C'est super fouillis dans tous les cas
Ouais,
aussi.
on comprend pas trop, il y a une histoire avec Mystique, ce qui fait qu'on perd un peu en clarté, malheureusement. C'est pas inintéressant, mais je crois qu'on va pouvoir passer vite à autre chose.
C'est ça, on peut passer à autre chose, c'est
Voilà,
fini.
donc Ultimate Requiem, c'est chez Panini Comics, ça coûte 5,60 €. Dépensez-les si vous avez acheté les précédents, sinon gardez-les et trouvez mieux.
Maintenant, le seul intérêt, c'est de savoir maintenant que va devenir la série Ultimate et avec le renouveau qu'on va devoir
Clairement,
avoir.
il y a de bonnes bases pour avoir quelque chose d'intéressant. Maintenant, j'espère qu'ils vont bien les exploiter.
Juste une dernière chose, pour ceux qui avaient suivi l'épisode 0 du podcast, on avait parlé d'une main avec des griffes qui tombaient au fond d'un lac. Moi, je dis, encore une fois, il va revenir.
Tu veux dire que Wolverine régénère même avec un poil de cul?
Exactement.
Wouah!
Deuxième livre.
Buffy contre les vampires, tome 5, les prédateurs, principalement par Joss Whedon et George Ante. C'est la saison 8 de Buffy que j'ai continué à acheter parce que j'avais bien aimé la série. Voilà, je pourrais presque être honteux, mais non, pas du tout. Malheureusement, je trouve que les scénaristes qui travaillent sur cette bande dessinée, on retrouve les habituels, hein, il y a Jane Espenson, que je retrouve Steven Knight, enfin que des scénaristes qui avaient travaillé sur la série télé, et ben ça va être des super scénaristes de série télé, mais alors en BD, les mecs, il faut qu'ils apprennent à raconter des histoires, je trouve. Ça manque clairement de clarté, bien que le point de départ soit une très bonne idée. Harmony, donc, qui était l'amie de Buffy quand elle était toute jeune au lycée, qui est devenue une vampire entre-temps, devient la star d'un show de télé-réalité, ce qui fait que d'un coup, dans le monde, on commence à considérer les vampires comme un trop cool. L'idée est géniale, ça creuse sur les problématiques actuelles, ça creuse sur la coolitude du vampire que nous a inspiré des trucs à la Twilight.
Ah bon?
Oh! Le vampire, c'est beau et romantique.
Ah, dans tout là, dans le journal du vampire, dans le journal du fou vampire, l'apprenti du vampire, le valet du vampire. Enfin, excuse-moi.
Voilà, le vampire qui est trop beau. Cette année, c'est les loups-garous.
Ah, c'est les mecs torse-poil qui. Enfin, bon.
Ouais, c'est comme ça qu'on reconnaît le loup. Donc, Georges Gentil fait un travail très honorable au niveau du dessin. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est plutôt bien foutu. C'est simple. On reconnaît les personnages. Même si c'est parfois un peu caricatural, mais bon, c'est pas dramatique. Par contre, bah voilà, on a un scénario vraiment confus. On a l'impression qu'ils ont essayé de condenser sur chaque épisode de 22 pages de ce recueil, beaucoup d'informations et voire beaucoup trop. C'est pas très apte au format BD, j'ai l'impression. Ça aurait peut-être fonctionné dans un épisode télé, mais en BD, ça chie un peu dans la colle.
Mais il y a Vampicha.
Et donc, Mathieu a quand même apprécié. Alors, il s'est mis à lire Buffy pour le podcast, hein, attention.
Parce que Buffy, j'ai même pas suivi la série.
Voilà. Donc, quel sacrifice.
Non, mais il y a des épisodes qui étaient très bien dans la série télé. Hein. Je me rappelle des épisodes mais
Exceptionnel même.
exceptionnels, voilà. Mais là, le seul intérêt, je trouve, c'est Vampicha.
Bah vas-y, explique-nous, mais qui est
Non,
ce vampicheur?
tu me donnes le livre, parce qu'il faut faire les dialogues. C'est
Ah voilà.
Vampicha. Vampicha, c'est donc un petit chat, une petite peluche. Attendez, il faut que je retrouve la page, parce que là, il faut refaire tout le dialogue. C'est très rapide, vous allez voir. Hop, 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 hop. Oh, tu es une grosse patate, patate qui pue, patate qui est pourrie. Oh, ne pleure pas, ma petite boulette de riz. Ça, c'est le grand-père donc, qui parle à sa petite fille. Tiens, regarde, je te donne Vampicha. Il est doux, il est câlin, il est ton ami. Oh, mon petit Vampicha mignon. Oh, et là, les gamins reviennent. Oh, ton ami est une patate qui pue. Et là, Vampicha s'énerve. Il leur arrache les yeux, il les éventre, il leur arrache la tête. Et du coup, la petite.
Il les étête.
Il les étête, c'est ça. Et
Il
du coup,
les arrache le cul.
Hein?
Non, rien, vas-y, continue.
Oh! Et donc après, voilà, la petite retrouve son petit vampicha. Oh, tu es trop mignon, tu es trop gentil, je t'aime, vampicha. Voilà, c'était juste le seul intérêt de
Voilà, donc
Buffy.
quelques trucs sympathiques dans ce Buffy. Ça reste intéressant parce que les concepts de la série sont bien développés.
Vampicha fait 3 pages, hein, donc
Oui.
c'est le seul truc intéressant, ne l'achetez pas.
Moi, j'ai.
Feuilletez-le à la Fnac ou dans n'importe quelle boutique, vous savez, vous vous mettez dans un rayon, vous faites hop, tiens, je vais à l'épisode Vampicha, je lis, je rigole et je referme.
Ça se lit avec nostalgie, voilà, hein, un culte. C'est Joss Whedon qui l'écrit, c'est Dieu!
Ouais, si on... Oui, non, c'est vrai qu'il a fait. Non, il y a...
C'est l'auteur de Firefly!
Non, ça se dérange, je suis d'accord, là, respect. Firefly.
Voilà, pour on paraît que les BD Firefly sont pourris aussi. Suite du programme, avec le tome 19
De
de City
City
Hunter.
Hunter.
Alors, que nous raconte ce tome 19? Alors, on est un petit peu dans le rattrapage, parce que je me relis les City Hunter petit à petit. Mais on le met en easy reading, parce qu'on va quand même pas dire que c'est hautement philosophique et qu'on apprend beaucoup de choses sur la vie, son œuvre dans City Hunter.
De quoi? Comment ça? Attends, tu apprends pas que Rio Chouchou arrive à faire Mokori partout quand il veut, quand il veut?
Oh, bon.
Non, alors épisode intéressant quand même de City Hunter, parce que le 19, parce que d'un coup on découvre que. Je vais dire Kaori, parce que là je me trompe pas, non, c'est bon? Kaori,
Kaori, c'est ça,
c'était.
c'est Kaori. Non, c'est Saori l'autre qu'il faut pas confondre.
Voilà, c'est ça. Oh, en ce moment-là, les noms, c'est. Donc Kaori, donc, on découvre qu'elle a une sœur. Et la sœur voudrait que Kaori devienne plus féminine, ne soit plus l'assistante, on va dire, dévouée de cette espèce de pervers qu'est Nicky Larson. D'ailleurs, qui s'appelle pas Nicky Larson dans la série, qui
Ryo
s'appelle donc
Saeba,
Ryo Saeba.
la traduction est juste, on va dire, pour le coup.
Donc Ryo Chouchou pour les intimes. Bon, ben, bon Nicky Larson, quoi. Ça reste du easy reading, c'est simple, c'est drôle. Bon, Ryo Chouchou est toujours présent, moi je dirais, c'est
Bon,
l'essentiel.
rapidement, pour ceux qui sont pas de notre génération, parce qu'il y en a qui sont connaissent. Nicky Larson, tout le monde connaît peut-être pas.
Oh,
C'est donc un film
attends.
avec Jackie Chan.
Compte sur toi, tu sors.
Non, Nicky Larson, City Hunter a été adapté en dessin animé, qui est passé à l'époque du Club Dorothée, sous-titré Nicky Larson, avec des doublages pourris.
Une chanson de Bernard Minet.
Voilà, les noms des personnages qui changeaient en cours de route, des coupes atroces dans les épisodes, parce que. En gros, clairement, le Mokori de Nicky Larson, donc de Ryo Saeba, le
C'est le
héros.
chapiteau dans Wayne's World.
Voilà. Bon, alors en gros, ce mec est un obsédé. Il passe son temps à bander. Quand il propose aux jeunes filles de les accompagner, c'est dans un hôtel.
Non mais attends, mais là on va perdre des clients là. Je veux dire, les gens, ils vont se dire ça y est, on est politiquement incorrect, hop,
Mais je parle
interdit
de
au moins
tir
de
à
16.
l'arc. Où tu vas voir le mal? Je parle de tir à l'arc.
Moi je parlais juste d'une petite référence comme ça, un vieux film que tout le monde connaît. D'ailleurs, juste en dessous, personne ne l'a vu.
Wentworth, on parle pour les jeunes là. S'ils connaissent pas Nicky Larson, comment tu veux qu'ils connaissent Wentworth?
Je suis vieux.
Eh oui, mon gars. Et il a une assistante qui peut porter des marteaux de 100 tonnes pour lui éclater sur la tête. Bon, les scénarios sont en général complètement débiles, avec un côté sérieux quand même, parce que le personnage part du complètement débile au côté sérieux. Je suis un tireur de la mort et je suis trop fort, sans jeu de mots. Série agréable, sympathique à lire malgré toutes ces années. De Tsukasa Ojo, il y a eu une suite qui s'appelle Angel Heart, toujours chez l'éditeur. Je crois que c'est Manga, c'est Panini Manga, voilà. C'est un spécial Panini aujourd'hui presque. Ah non, Buffy, c'est chez Delcourt. Non, c'est chez Fusion Comics.
Fusion Comics.
C'est Soleil et Panini. Fusion Comics. Donc, bah, ça vaut le coup. Bon, l'édition actuelle, c'est l'édition dite de luxe, hein, ça coûte 9,95 € le tome. Ça reste. Bah, on a le nombre de pages qui vont bien, c'est du manga, c'est agréable. Et c'est surtout très bien dessiné, les dessins ont très bien vieilli, même si, bon, les caisses et les costumes années 80, ça a un peu pris, ça a un peu de son âge, quoi.
Oh, tu rigoles ou quoi? Ça fait un petit remake de Flic à Miami.
Voilà. Mon seul regret sur cette édition dite de luxe, et c'est le truc qui m'énerve le plus dans ces mangas, quitte à faire une édition de luxe, ils pourraient mettre des épisodes entiers.
Tout à fait.
En gros, on a dedans, on doit avoir près de 200 pages, un truc dans le genre. Et chaque. En gros, ça paraissait dans les magazines au Japon. Toutes les semaines, il y a quelques pages, une vingtaine de pages, je crois, de la bande du manga en question. Et là, plusieurs histoires font une histoire complète. Et clairement, on s'arrête au milieu d'une histoire, on commence au milieu d'une histoire. Je trouve ça un peu pénible. Ils auraient pu faire l'effort de faire peut-être des numéros un peu plus gros, des numéros un peu plus petits, mais qu'on ait des histoires complètes à tous les coups. Moi, c'est quelque chose qui me gonfle au plus haut point. Donc, City Hunter chez Panini Manga, 9,95 €. Si vous voulez rigoler un bon coup, et si vous ne saviez pas que City Hunter c'était Nicky Larson, et que vous étiez fan dans votre jeunesse, courez dessus, c'est trop bien.
La suite, nous passons donc à. La légende des nuées écarlates.
Tome 3. Par Saverio Tenuta.
Chez les humanoïdes associés.
Alors, légende des nuées écarlates, c'est une bande dessinée japonisante, dans un univers parallèle, on n'est pas dans le Japon, clairement, hein, mais qui s'en rapproche. C'est une bande dessinée italienne, Saverio Tenuta est donc un auteur italien. Nous suivons les aventures d'un samouraï manchot qui, en gros, dispose d'épées qui sont légendaires, qui s'appellent les Nuées Écarlates, et qui, en gros, dans un monde attaqué par des sortes de monstres loups, et il s'est battu pour affronter les monstres loups. Et nous apprenons dans ce troisième tome, nous partons du principe que vous avez lu les deux premiers, hein, clairement, c'est le tome des révélations. Nous avons c'est des. Ça. Flashback sur le passé du personnage tout du long.
Oui, parce que dans le premier tome, il faut se rappeler, enfin, juste on peut le situer, c'est qu'il était totalement amnésique en fait. On découvre le personnage en ville, il s'échappe avec une fille et il est totalement amnésique de tout ce qu'il a fait avant. Donc il ne sait pas presque, on va dire, il ne sait rien de son passé.
Il ne sait pas pourquoi il a ses épées, ni rien du tout, et là on l'apprend.
Il ne sait pas non plus pourquoi il lui manque un bras et un œil. Mais...
Oui, bon, il apprend vite ça quand même, dès le premier tome. Sur le bras, pas l'œil.
Sur le bras, oui, mais pas l'œil.
Bah, sur l'œil, on pensait le savoir.
On a un doute.
Là, en fait, on a un autre doute. Bref, c'est une série. Bon, ce qui saute aux yeux dans cette bande dessinée, c'est le dessin. Le dessin est très joli. Le fait d'avoir choisi un univers japonisant, mais hivernal, tout est toujours sous la neige, permet au dessinateur de jouer vraiment sur les contrastes, faire ressortir les couleurs, le rouge pendant les scènes de bataille, le bleu la nuit, les costumes sont souvent dans les teintes de rouge, qui est la couleur du courage au Japon. C'est vraiment très très beau. Il a aussi pris le parti pris de se démarquer du vrai Japon médiéval, ce qui lui donne une certaine liberté dans la narration. On a une approche, je dirais, pour ceux qui connaissent, qui est proche du jeu de rôle Légende des Cinq Anneaux. Mais avec un univers plus restreint. Il s'est limité à raconter un bout de son univers et à s'y tenir. Et enfin bon, je trouve ça très bien. Par contre, niveau scénario, je trouve que c'est très confus. C'est clairement pour moi le genre de bande dessinée qui mériterait d'être lu uniquement en intégrale. Je trouve qu'on arrive dans ce tome-là à avoir beaucoup de données qui font des références à tout ce qu'on a appris dans les autres tomes. Moi, j'ai relu les trois tomes d'affilée. J'ai eu aucun souci, mais je suis persuadé que si on arrive sur le tome 3 après les 1 ou 2 ans d'écart du tome 2, on est mais largué au possible.
Je suis bien d'accord avec toi, mais, parce qu'il y a un mais, moi, justement, c'est ce qui a fait que j'ai conservé de l'intérêt pour la série. Parce que j'ai acheté le premier tome vraiment quand il est sorti, donc tout beau, tout neuf, il n'y avait que ça. Et en lisant le premier tome, si tu veux, c'est vraiment resté dans ma mémoire, voilà, c'est. Les dessins étaient fabuleux, le scénario, ben, c'était l'ouverture, donc vraiment le mystère complet. On avait très très peu d'éléments du scénario, vraiment on piochait à gauche à droite pour essayer de reconstituer ça. Et c'est ce qui a fait que du coup j'ai vraiment attendu d'avoir que le tome 2 sorte pour l'acheter, et puis le tome 3. C'est ce qui a aussi créé un petit peu l'envie, moi, de suivre la série, parce que sinon, je pense que si le scénario avait été différent, je ne suis pas certain que j'aurais acheté la suite.
Ouais, c'est possible, mais moi je sais que pour de la BD, je dirais... édité à l'européenne, il faut avoir, à suivre brut et le cliffhanger violent. Bon, c'était pas le cas sur le précédent tome, mais il y avait beaucoup de questions ouvertes, et pas évident. Là, les tomes en eux-mêmes jusqu'ici, ça allait très bien. On a l'impression que dans ce tome-là, en fait, ils veulent en raconter beaucoup trop. On apprend énormément de choses.
Oui, mais vraiment, ça monte en puissance, quoi.
Que tous les personnages sont liés, ça monte en puissance pour le final qui sortira dans le prochain tome d'ici
le temps qu'il faudra. Mais vu les dessins, moi je dis le scénario, je pense qu'il peut prendre le temps, ça me dérange pas.
Donc, ouais. Enfin, ça vaut le coup quand même.
Monsieur est habitué aux comics où ça sort tous les mois, hop, hop, rapide, vite fait, ouais. excuse-moi, ils n'ont pas le même débit hein, sur la franco-belge. Hein.
Oui,
ou italienne. La franco-italienne belge.
Voilà. Et donc, Légende des Nuits Écarlates de Saverio Tenuta, tome 3, le trait parfait, chez les humanoïdes associés à 12,90€. C'est franchement, enfin, ça reste à lire. Moi, je le conseille quand même. Hein. Mais si vous vous embarquez en route, c'est pas plus mal, je trouve, parce que ça se prête vraiment pour moi à la lecture en format intégral.
Mais si vous êtes patient, vous pouvez faire comme moi aussi, ça fonctionne très très bien.
On s'en fout, on va parler du bouquin suivant, qui est La Licorne. Et La Licorne, là, je te laisse commencer. Arrête de t'agenouiller devant cette bande dessinée.
Ah, j'écoute, ça a été une découverte il y a quoi, il y a 2 ans à peu près, je crois qu'il est sorti le premier. Là, j'ai plus les dates en tête, mais on va dire, voilà, je me baladais tranquillement dans un petit rayon, je vois La Licorne. La bande, la première page, je me dis, bon, ça a l'air sympa, je feuillette, je me dis, bon, les dessins sont sympas.
Et puis tu aimes les licornes.
J'aime les licornes, mais je pense même qu'elles existent. Ah. Comment tu penses que les licornes... Oups, désolé. Alors, donc je feuillette ça, et là, vraiment, un énorme plaisir. Donc La Licorne, c'est un roman, une bande dessinée, donc fantastique, qui se passe donc aux alentours du...
Fin 15e.
J'allais dire 15e, 16e, mais voilà, ouais. À peu près. Où on
bon, les, les dates sont données dans la BD très précisément, mais enfin, moi je suis nul en histoire, je pense que toi aussi.
Merci, c'est sympa. ouais, à peu près, on va dire les 15e, 16e, et vraiment avec donc une approche assez médicale du... Dans le roman au début,
ouais, on va voir de quoi ça parle. Je pense que ça.
Ça va. J'ai une approche médicale. On a donc justement donc des personnages célèbres, Ambroise Paré,
oui.
Voilà, qui était donc le médecin de je sais plus quel roi.
Chirurgien.
Chirurgien de bataille, ouais. Le mec qui a découpé et tronçonné.
À l'époque, les médecins et les chirurgiens, c'était pas pareil.
Bon, donc le chirurgien de je sais plus quel roi, mais on le trouvera bien un jour. Qui se retrouve avec donc
je des. Crois que c'était Henri II.
Tu vois, regarde, je te fais ça et je te dis. Tu trouves, c'est dans le tome 2, je crois, ou le tome 1. Et donc, ce chirurgien donc, se retrouve avec donc, un ami qu'il croyait mort depuis quelques années, qui débarque chez lui un jour, à deux doigts de mourir.
Henri II.
Ça va, dis-moi, tu veux que d'un coup, hop, on t'applaudit donc.
Mais arrête de t'interrompre. Mais raconte-nous de quoi ça parle, ce truc. Mais de quoi ça parle, cette BD?
Donc, justement, mais je suis en train de dévoiler un peu l'intrigue. Un ami donc, d'Ambroise Paré revient donc, d'entre les morts et lui dit qu'il y a donc, un grand secret qui est gardé et qu'il faut donc, qu'il prévienne les autres personnages, d'autres amis à lui, pour justement donc, contrer l'Église.
Bon, nous sommes au tome 3. Nous partons toujours du principe que vous avez lu les deux tomes précédents, parce que sinon, ça va être dur d'en parler. Qu'apporte ce tome 3 à l'intrigue?
Déjà, un truc qu'on a oublié sur l'intrigue, c'est qu'il y a donc des créatures dans ces histoires qu'on appelle des primordiaux. Et les primordiaux, donc, sont des créatures donc, qui sont créées donc, par une sorte... Alors, là, j'ai plus...
Alors l'origine des primordiaux, apparemment, c'est des créatures qui datent en même temps de l'homme, hein, en même temps ouais. Que l'homme. Enfin, ça date de super longtemps.
De l'Antiquité, même, parce ouais. Que c'est Chiron, en fait.
Ouais, même avant.
Même avant. Chiron, donc, qui est en théorie le centaure qui a éduqué Hercule dans l'Antiquité, qui est en théorie le premier primordial. En quoi ce tome-là nous fait vraiment avancer? Les dessins sont toujours. À tomber, voilà, je veux dire...
J'aurais tendance à dire qu'il y a même du mieux, hein, mais...
Non, ils étaient déjà à tomber, les dessins d'Anthony Jean, dès le premier tome.
Il y a du mieux.
Et là, je dirais que le troisième tome, c'est vraiment, on reste à chaque page, voilà. Donc le tome se passe à Venise. Donc déjà, Venise, bon, c'est déjà une belle ville, mais je trouve qu'elle elle est vraiment super bien dessinée. Et l'histoire avance grandement, parce que donc on arrive à un moment où on a, on pourrait dire, la fin du premier cycle.
En gros, clairement, on a appris dans les tomes précédents que l'Église avait mis en place un complot pour changer l'anatomie humaine. C'est-à-dire que jusqu'ici, toute la science qui parlait des humeurs, avec les saignées, etc., ça marchait en fait, c'était pas du pipeau. Mais que l'anatomie humaine a changé pour rejoindre la science médicale telle que nous, on la connaît maintenant. Et que ça, c'est à cause de l'Église. Et on apprend dans ce tome les raisons de l'Église et leurs projets. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on avait un méchant qui n'était pas monolithique. Les intentions du méchant sont bonnes. Clairement. Les moyens sont tendancieux, mais les intentions du méchant sont bonnes. Il fait ça croyant vraiment faire le bien de l'humanité.
Comme beaucoup de méchants dans beaucoup de séries.
Non. Les méchants dans beaucoup de séries, ils sont méchants. Là, franchement, j'ai trouvé que... clairement, moi, l'influence que ça me donnait, c'est que le personne qui a fomenté le complot le fait pour une bonne intention, et clairement, ses successeurs, c'est eux qui vont faire du n'importe quoi. Mais j'ai trouvé que c'était très, très, très bien vu. J'ai beaucoup aimé aussi la façon dont sont dessinés les primordiaux, donc qui sont des amas de muscles, d'os, vraiment très, très... un design vraiment assez très original et qui colle très bien à la BD. Une réécriture de toutes les créatures classiques, que ce soit le dragon, l'hydre, etc. Et enfin, quelque chose que j'aime beaucoup dans cette bande dessinée, c'est le côté, on va dire, un petit peu, qu'on pourrait qualifier de pompeux, mais sur les deux dernières pages, il y a à chaque fois des petites notes historiques pour nous resituer la BD dans son contexte. On apprend la vérité historique sur Ambroise Paré, sur le carnaval de Venise, sur le rituel, comment il s'appelle ce rituel qui se passe à Venise ? Tu dois avoir... c'est le...
Bucentaure ?
Le Bucentaure, c'est ça. Le Bucentaure, qui est le rituel qui se passe à Venise, qui est réutilisé de façon très intelligente dans...
Le Bucentaure, c'est la galère sur laquelle le doge montait pour la cérémonie.
Oui, mais c'est le nom de la cérémonie, c'est la cérémonie du Bucentaure, je crois. Enfin bon, on n'en est pas... importance là. Bref, La Licorne est une très bonne bande dessinée avec un scénariste qui n'a pas fait tant de choses que ça, en fin de compte. Hein, on a cherché tout à l'heure. Il a encore une autre série en cours dont j'ai oublié le nom, mais qui a l'air... enfin, ça a l'air très sympathique. S'appelle Truc de Nemo. Ah zut, qui vient de sortir. Il ne sera peut-être pas dans ce tome. Bon. Quoi qu'il en soit, justement, il n'y a pas le défaut, je trouve, de Légende des Nuées Écarlates. Premièrement, parce que quelque chose qui est très rare, il y a un résumé des épisodes précédents au début. Alors, c'est d'une rareté dans le franco-belge assez phénoménale. Là. Ensuite, je trouve que ils arrivent à avoir une histoire complexe, mais à avancer à chaque fois d'un étage, à chaque fin de tome. Baf, on a arrêté sur un étage, on sait clairement dans quelle situation on est. Et on peut repartir sur la suite des intrigues ensuite de façon très très intéressante. Bref, c'est un achat que nous recommandons, principalement pour les dessins de Anthony Jean. Mais n'oublions pas le magnifique scénario de Monsieur Gabella, qui est vraiment superbe. Mathieu Gabella. C'est donc chez Delcourt, c'est le tome 3 et ça coûte, ouais, ça va être dans les 12 euros.
Ah. Code prix DE30.
Ça coûte DE30.
Mais bon, à peu près comme n'importe quel bande dessinée, 12 euros et des brouettes.
Voilà, plus 13 qu'autre chose.
Plus, ouais, vraiment.
Nous attaquons maintenant sur un gros pavé qui est le tome 1 de The Savage Dragon d'Eric Larsen, paru chez Delcourt et qui coûte la bagatelle de 27,50 €. Ça fait beaucoup. D'un autre côté, on a un nombre de pages assez énorme. On doit avoir presque 300 pages. Pas loin.
Oui.
Et c'est une réédition, en fin de compte. Il faut savoir que The Savage Dragon donc, est un des personnages qui a été créé par Eric Larsen à la fondation du studio Image dans les années 90.
Le Savage Dragon qu'il avait créé déjà depuis lui tout jeune, depuis l'âge de 9 ans.
Voilà, c'est une création d'enfant. Mais c'est ce qu'avaient fait la plupart des créateurs d'images. Hein. Le Spawn, par exemple, était une vieille idée de McFarlane. Les Wildcats reprenaient des vieux concepts de Jim Lee, et ainsi de suite. Savage Dragon a une particularité, c'est qu'avec Spawn, c'est la seule série qui n'a eu aucune coupure depuis ses débuts en 91 ou 92. Elle a une particularité encore plus grande, c'est la seule série de chez Image qui n'a pas changé d'équipe depuis le début. C'est Eric Larsen qui s'est depuis le début occupé du scénario et du dessin. Premièrement, peut-être parce qu'ils savaient scénariser, parce qu'il faut l'avouer, McFarlane et Jim Lee ont vite demandé à des collègues de leur donner un coup de main, parce que bon, bah, c'est des superbes dessinateurs, mais bon, hein, chacun son métier.
Chacun son métier, je
Ça a été donc édité, Savage Dragon, au début d'image chez Semic, en fascicule, c'est passé en kiosque, sauf que bah, ça n'a pas rencontré le succès escompté, et on en a été privé pendant de nombreuses années. Donc Delcourt a eu le courage de nous ressortir un intégral, qui nous raconte les débuts de ce héros. Donc The Savage Dragon, c'est une sorte de Hulk, un gars tout vert, tout grand, intelligent, avec une crête sur la tête.
Un aileron de requin.
Ouais, qui est super balèze, il est super fort, et en fait, un jour, il se réveille au milieu d'un incendie, et il est totalement amnésique. Putain, quelle originalité, ces scénaristes. Il ne sait pas qui il est, et bah, il va devenir flic. Nous avons donc un super héros qui est en uniforme, mais en uniforme de flic.
C'est pas un super héros, c'est un Strum.
Ouais. On notera la traduction qui est phénoménale. Donc, bah, il suit ses enquêtes. Une autre particularité de Savage Dragon, c'est que c'est du temps réel. C'est-à-dire que là, cette série existe depuis près de 20 ans. Bah, il s'est passé près de 20 ans dans la série. À l'heure actuelle, on en doit être au volume 150 et des poussières. Savage Dragon a été marié une ou deux fois à des enfants qui sont, je crois, qui sont au collège ou un truc dans le genre. Bref, la série avance beaucoup. Cette édition-là nous regroupe les premiers tomes de Savage Dragon ainsi qu'un hors-série, une mini-série qui était sortie, dessinée et scénarisée par Jason Pearson. Jason Pearson, vous le connaissez pour son travail sur Body Bag, qui est sorti chez Delcourt, il me semble aussi, et qui est fantastique. Enfin, moi, je suis fan de ce dessinateur-là.
Mais il n'y a eu qu'un tome.
Il n'y a eu qu'un tome.
Ce qui est bien dommage.
Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à rajouter sur cette bande dessinée Savage Dragon ?
C'est une bonne bande dessinée, je me suis bien régalé. Surtout, enfin, ce qui était bien dans celle-ci, c'est qu'il y avait tous les petits commentaires d'Eric Larsen, des petits résumés justement des différentes histoires, pourquoi il les a fait, comment il les a fait, où il se raconte un petit peu.
C'est vrai que c'est une très belle édition, il y a eu un travail éditorial très intéressant. On a pas mal d'introductions, d'éléments qui nous expliquent la genèse de la série. Bah moi, je trouve surtout que ça a bien vieilli.
Ouais.
Je veux dire. Clairement, on se relie les premiers tomes d'un Wildcat. Les premiers tomes d'un Wildcat, oh, ça fait son âge. Hein. Le dessin de Jim Lee est toujours aussi superbe. Bon, les couleurs sont un peu trop flashy maintenant, je dirais, par rapport à ce qui se fait maintenant. Mais là, on sent bah, que Larsen maîtrise son histoire, qu'il y a un scénario, un univers qui est sympa. Et puis en plus, on a vraiment une traduction moi, qui m'a vraiment super plu. Alors, de qui est-elle déjà? Je crois que c'est... Parce qu'on a quelques traducteurs dans la bande dessinée américaine qui sont souvent les mêmes. Je crois que c'est Edmond Touriol, mais je suis pas sûr. Je dirais peut-être une grosse connerie. Enfin, de notre côté, ils se connaissent. Hein. C'est scénariste, c'est traducteur. Hey, ils ont caché le nom du traducteur. Bref, ouais, ça va. Hein. Hey, d'habitude, c'est toi qui fais des blancs. Hein.
Oh ben, quand on fait un, je peux bien quand même le remarquer.
Bref, quoi qu'il en soit, voilà, lisez-le, c'est vraiment très très bien, ça vaut son prix. Les dessins sont sympathiques, alors assez. Un peu caricaturaux quand même, dans le ton.
Oui, mais je dirais ça va très très bien avec le ton de la bande dessinée et donc de Savage Dragon.
Et bah, on a en plus plein de bonus à la fin, assez sympathiques. Toute l'histoire du héros, on apprend le drame d'Eric Larsen qui a perdu toutes ses archives dans une inondation, je crois.
Non, l'incendie de Dockland.
Voilà. Une série de super-héros originale, pour une fois. C'est d'ailleurs la seule série de chez Image des origines qui essayait d'être originale.
Spawn aussi.
Oh, Spawn, c'était Spider-Man. C'était un Spider-Man mort-vivant, hein, au début.
C'est un peu simpliste. Enfin bon, on va pas rentrer dans le débat.
Nous passons à la suite.
Un autre bullet, tome 9, un frisson dans la jungle, donc de Brian Azzarello et d'Eduardo Risso.
Chez Panini Comics, une collection Vertigo, ça doit coûter dans les 11 euros.
Donc le petit résumé, un des personnages principaux qui dans le tome 8...
C'est difficile de parler de personnages principaux dans cette série.
Bon, alors, un des personnages principaux du tome 8... Lono, que l'on pensait disparu corps et bien.
Éliminé.
éliminé sauvagement, a survécu. Et du coup, comme Lono a un peu pété les plombs, Lono va direct à la case prison, où il retrouve un vieil ami.
Du tome,
il y a déjà longtemps, Bébé Hugues. Et bon, bah, c'est l'histoire de la vie dans la prison et des deux personnages qui essayent de survivre l'un et l'autre.
Bon, on a le complot qui avance un peu.
Pas tant que ça dans celui-là.
Mais on va résumer vite fait Red Bullets. Très vite fait. Bon, en gros, c'est l'agent Graves qui arrive avec une valise, avec un flingue, 100 balles, des balles intraçables. Vous pouvez faire ce que vous voulez, surtout qu'en plus, dedans, il y a la preuve qui accuse la personne qui a pourri votre vie. Le gars qui a fait de vous la merde que vous êtes maintenant. Et il vous dit, tenez, vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. De toute façon, quoi que vous fassiez,
vous n'aurez aucun problème.
On avance petit à petit dans le complot, on essaie de comprendre pourquoi ça se passe. La série se complexifie avec le temps. On apprend petit à petit qu'en fait, c'est une méthode de recrutement pour recruter des hommes de main qu'ils appellent les... Ah, j'ai oublié le nom. Enfin bon, pour recruter leurs hommes de main. C'est aussi un moyen de réveiller certains agents endormis. Il y a tout un complot... on va dire, avec des corporations, des groupes d'influence gouvernementaux qui datent apparemment de l'Antiquité aussi, d'ailleurs. Hein. C'est franchement très complexe, mais ce qui est génial, c'est que chaque histoire a son petit côté indépendant tout en faisant avancer une intrigue générale. Ici, on a une histoire, en fin de compte, si on résumait à l'idée de la BD, qui nous parle de recrutement. Alors, va-t-il y avoir recrutement ? Va-t-il pas y avoir recrutement ? Mais Bébé Hugues se retrouve dans la merde, avec Lono qui lui en veut, avec les gars de la prison qui lui en veulent, avec je sais plus qui d'autre qui lui en veut, mais enfin, un peu tout le monde lui en veut, et doit réussir à trouver une solution pour s'en sortir. Que va-t-il faire ? C'est ce que ce magnifique polar, superbement écrit, nous raconte. On a une ambiance qui fait très penser à Oz. C'est directement dans le ton.
C'est clair.
Et des dessins. Mathieu.
Vraiment complètement bidon, à chier, un truc innommable. Franchement, c'est tout pourri.
Bon, ben, devant ce mensonge éhonté, Eduardo Risso est un auteur, un dessinateur argentin, vraiment génial, qui a un sens de la mise en scène fantastique, un travail du noir et blanc génial. Des fois, je me demande même pourquoi on a des couleurs, même si les couleurs sont très très bien, hein, on va pas le nier. Mais... son travail sur le noir et blanc est tellement fort.
Et puis une mise en page qui est super dynamique, quoi. C'est...
Oui, ça se lit à une régularité géniale. Les traits des personnages sont bien marqués, ils sont bien reconnaissables. On a des facilités à les reconnaître. Moi, je sais que par exemple, sur la licorne, parfois j'ai des difficultés à savoir qui est qui. Ouais. Bah, tu sais, quand t'as les médecins barbus bruns.
Mais ils sont tous barbus et bruns, qu'est-ce qu'on fasse ?
Bah oui, mais c'est un peu chiant.
C'était la mode à l'époque.
Voilà, bah là, ils sont bien, bien différenciés, et je trouve ça très très bien. Bref, Sun Red Bullet est encore un très bon tome. Gros regret, par contre. 4 tomes.
4.
Ouais. 4 tomes dans ce recueil. Sachant que la bande dessinée américaine a prévu de sortir 100 tomes qui sont sortis à cette heure-ci.
Et nous n'en sommes qu'au 46.
Nous sommes qu'au 46 en France. Et ces tomes-là sont édités dans les recueils américains. 13 recueils sont prévus. Nous en sommes au numéro 9. Autant vous dire que nous, ce n'est pas 13 recueils qu'on va voir, c'est un gros paquet. Donc, avant qu'on lise la fin, bah, on en a pour un moment. J'espère que je ne vais pas tomber gravement malade d'ici là.
Je pense aussi qu'on n'en a que 4 parce que c'est un cycle à part.
C'est un cycle à part. Non, c'est assez régulier. Hein.
Oui, non, mais c'est Chili in the Oven.
Oui, c'est... Être...
Mais voilà, c'est une histoire. Ils se sont dit, on va t'en la mettre.
On va mettre seul. Oui, mais dans les éditions américaines, il y a parfois deux histoires, deux arcs narratifs complets dans un recueil, voire 3. Bon. C'est le regret de cette édition qui tire un peu sur la corde, je trouve. C'est un peu dommage. Mais Unread Bullet, c'est vraiment rare. Warren Ellis revient dans ce podcast, je crois, pour la 3e émission consécutive. Je crois qu'on en a déjà encore parlé dans le dernier.
C'est l'animateur star de notre podcast.
Warren Ellis, bon, il faudrait qu'il arrête de produire un peu, parce que ça devient chiant. D'un autre côté, il fait de la BD plutôt de qualité, donc on ne va pas trop lui en vouloir. Il s'est associé ici avec Juan José Rip pour... ouais, t'as vu, Juan José, pour nous pondre Black Summer, qui est sorti chez le tout jeune éditeur de comics Milady, qui est en fait... une filiale des éditions Bragelonne, connue pour ses éditions de romans de fantasy. C'est à qui d'en parler, je sais plus.
C'est à toi,
c'est à moi. Je fais que parler.
Hein. Ah non, attends, j'ai vachement parlé là pour l'instant.
Donc Black Summer, c'est déjà une histoire complète. Faites-vous plaisir, hein. il n'y aura pas de suite.
Pour 14,90€.
Voilà. C'est sorti chez un petit éditeur indépendant qui s'appelle Avatar Press. Et c'est une histoire un peu trash, comme on a l'habitude Warren Ellis. D'autant que chez les indépendants, il peut faire un peu ce qu'il veut. Nous découvrons donc John Horus, qui est un des 7 super-héros. En fait, ce sont des gens qui ont une identité secrète et qui ont fait des augmentations corporelles pour être super forts, tout ce qu'on veut.
Qu'on appelle les armes.
Les armes. Ce sont d'ailleurs les 7 seuls super-héros, on va dire, de cet univers-là. Et John Horus sort de la Maison Blanche.
Du bureau ovale.
Du bureau ovale, voilà.
Va dans la salle d'interview.
Et fait un petit discours où il annonce qu'il vient de tuer le président, ses principaux conseillers. Et qu'en fait, le gouvernement, c'est tous des enfoirés, qu'ils n'ont pas été justes et honnêtes, et qu'il fallait que le monde redevienne juste et honnête, et que le monde relance des élections.
Le monde.
Oui, que les États-Unis. Le monde. Oui, on est aux États-Unis, c'est le monde.
C'est le monde, c'est vrai.
Voilà. Ouais. Et Warren Ellis est en anglais, je pense que ce genre d'amalgame, ça l'amuse beaucoup.
Que le monde, donc, devait repartir,
De zéro en faisant des élections sur papier libre, à l'ancienne, pour avoir un nouveau président qui soit le vrai représentant des Américains. Donc du monde. Que dire de cette bande dessinée ? Bon, bien sûr, les gens sont pas contents et les 7 armes vont se retrouver à essayer de se faire buter toutes les unes après les autres.
Les gens sont pas contents, t'as pas trop la vie en fait. De la population elle-même, tu l'as pas.
Hein. C'est vrai qu'on n'a pas la vie de la population. On a la vie des militaires, des gens qui restent du gouvernement, des gens qui ont contribué à la création des armes. C'est un propos très acide. Donc, clairement, Warren Ellis est un scénariste anglais qui a tendance à être très trash sur les États-Unis en règle générale, les super-héros en général, même s'il traite pas mal. On se rappelle que Warren Ellis avait fait s'embrasser les deux personnages de The Authority qui étaient des parodies de Superman et de Batman. Ça avait fait un choc à l'époque, d'ailleurs. Ils en avaient parlé dans les magazines People aux États-Unis. Donc, c'est très, très, très violent. Il y a du sang dans tous les sens. La couverture le montre bien. Hein. On a John Horus avec son costume blanc, les mains tachées de sang, au milieu d'un bureau ovale détruit et couvert de sang aussi. C'est très bien écrit, c'est très critique. Le gouvernement américain en question est clairement le gouvernement de George W. Bush, qui s'en prend plein les dents, qui se fait buter hein, d'ailleurs. Donc,
on le voit pas.
Hein, on ne voit pas la mort hein, du président, on ne voit pas son assassinat. Et c'est bien construit, il y a une intrigue réelle.
Tu as l'image de fin où tu as ce qui s'est passé dans, dans le bureau ovale.
Oui, mais c'est une découverture. Il me semble que c'est une découverture à la fin. Enfin. Oui, c'est ça, c'est une découverte. Et donc, moi, je trouvais ça très sympa, très prenant, une histoire complète, bien écrite. Alors, c'est brut, c'est violent, mais ça manque pas de fond. Tio ?
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Voilà.
Tu veux pas dire non, tu n'as pas raison, c'est n'importe quoi.
Non, j'ai trouvé ça très bien dans le sens où on se pose la question de est-ce qu'un grand, le grand pouvoir. Implique de grandes responsabilités. Et est-ce que justement les super-héros ont le droit de tout décider, de tout régir et même de passer au-dessus de la loi ?
On retrouve tous ces héros proactifs. Hein. Donc, The Authority font partie de ces héros proactifs qui, plutôt que d'attendre que les méchants attaquent la banque, vont essayer de couper les couilles du futur papa du méchant. En fait. C'est un peu l'idée parce qu'eux, ils voient dans le futur, ils ont des pouvoirs. Enfin bref, c'est des gens qui vont aller au-dessus des lois en cours parce qu'ils ont des pouvoirs et qu'ils peuvent tenter de faire le bien à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça pose vraiment la question de savoir jusqu'où peut-on aller pour rendre le monde meilleur. Et sur ces belles paroles, nous allons passer...
Non, on s'arrête là, non ?
On peut s'arrêter
là. On s'arrête ici. Attends, sur une parole comme ça, tu fais... Stop tout.
On a des trucs trop bien dont on doit parler encore.
Oui.
Oui. Ouais, t'as pas l'air convaincu.
Bref.
Allez, on attaque sur quoi ?
Death Note.
Death Note. Alors, Death Note, on est en séquence rattrapage. Death Note. Alors, attention, pourquoi est-ce que je me suis mis à Death Note ? Parce que tout le monde m'a dit que c'était bien. Que ces salauds de France Loisirs me forcent à dépenser des sous chez eux. Et que, bon, il y avait les tomes 1 et 2 chez eux à pas trop cher. Donc, je me suis lancé. Death Note est donc un manga scénarisé par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata, qui est édité à l'origine, je ne sais même pas chez qui, parce que chez France Loisirs, c'est pas marqué. Je crois que c'est Pika Édition. Ça t'a vérifié. Et qui nous raconte l'histoire en fait, d'un démon qui laisse tomber sur Terre son carnet de mort, le Death Note. Un carnet dans lequel, quand on écrit le nom de quelqu'un, il meurt. En gros, hein, pour résumer. Et un jeune lycéen tombe sur ce carnet. Ce jeune lycéen est le fils du chef de la police et décide de l'utiliser pour changer le monde en tuant plein de gens, en fait. Forcément, il y a une réaction qui se met et un mystérieux enquêteur du nom de
L
essaye de déjouer le tueur du carnet. Est-ce qu'ils se rendent bien compte que tous ces meurtres étranges sont forcément liés ? Et ben, dans ces deux tomes, on suit cette intrigue qui progresse petit à petit. L'entrée en matière est très surprenante. C'est du cash. En gros, clairement, on voit un démon qui s'emmerde, on voit le carnet qui tombe, on voit le jeune qui le trouve, puis on a un petit flash-forward qui nous dit « Ah ah ah, je commence à tuer des gens pour sauver le monde. »
Oui, parce que en plus, le démon a mis un petit guide explicatif de comment utiliser Death Note au début.
Le Death Note, il y a un mode d'emploi un peu particulier. Et un mode d'emploi, j'ai l'impression qu'au début, il fait 3-4 lignes. Mais plus t'avances dans la BD, le démon n'a pas tout dit, forcément. Et on apprend quelques fonctionnements originaux qui relancent l'intrigue et qui la rendent pas si conne que ça. Donc, l'entrée en matière, moi, m'a un peu déstabilisé, m'a un peu perturbé. Et puis, finalement, on rentre dans le truc, parce que c'est quand même bien écrit. C'est du thriller, on est dans du manga, c'est du seinen, donc du manga pour grand, on va dire. C'est pas le shonen classique avec... J'ai un super pouvoir et je dois éclater la gueule du grand méchant qui a un super pouvoir plus fort que moi. Mais je trouve le super pouvoir plus fort que celui du grand méchant. Mais un autre super méchant arrive encore plus fort. Alors je trouve le pouvoir encore super plus fort. Et... qui au bout d'un moment bah, devient très très lourd. Hein. On l'aura vu avec des BD comme du Yu Hakusho, du Dragon Ball. J'en passe et des pires. Là, bah, on sent que c'est une histoire qui doit avoir une fin. D'ailleurs, il me semble qu'il n'y a que 8 tomes en tout. Et que c'est fini. Cette série a aussi beaucoup fait parler d'elle parce que il y a une adaptation en animé qui, paraît-il, est de qualité, que je n'ai pas vue non plus. Je découvre totalement Death Note. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus ?
Voilà.
Ça t'a pas captivé ?
Non, ça se lit facilement, c'est sympa. Bon, l'idée de départ est bien. Par contre, voilà, c'est le... Moi, le seul souci, c'est que tu trouves très rapidement quand même le héros donc, qui a le Death Note. D'ailleurs, on ne sait pas
si c'est un
anti-héros, mais qui est d'une froideur. Moi, ça m'a un peu gêné quand même. Le gars, il veut faire le bien, mais il a zéro remords.
Il n'a aucune empathie.
Ah, ça, c'est clair que le mec, il est un petit peu soucieux de ce côté-là quand même. Hein.
Il est même pire, je dirais, qu'un personnage comme Dexter, pour comparer à un autre sociopathe, parce que Dexter, au moins, se pose la question de se dire « Mais pourquoi est-ce que je n'ai aucune empathie ? » Lui, même pas. C'est juste. Puis moi, ce qui m'a énervé, c'est que il est super intelligent. C'est le lycéen sorti du néant, mais il est d'une intelligence super supérieure.
Oui.
Ça en fait même un peu trop, je trouve, parfois. Alors après, bon, bah, c'est entre guillemets le héros. Hein. Je suis curieux quand même de savoir comment ça va se poursuivre, de savoir comment ça va se finir aussi, parce que c'est le genre de série telle que c'est lancée. On aimerait qu'il y ait une fin. Donc, il me semble qu'il y en a une, donc on verra ça.
Il doit y en avoir une, c'est clair. D'autant plus que quand même c'est le dieu de la mort donc qui s'emmerde ferme en enfer.
Un des dieux de la mort.
Un des dieux. Ouais. Un des démons de la mort qui s'emmerde ferme et donc qui du coup fait semblant de perdre son Death Note pour aller voir le grand chef et lui dire « Oh, j'ai perdu mon Death Note », comme ça il en a un deuxième. Et c'est à ce moment-là qu'il le lâche sur Terre.
J'ai fait pareil pour pouvoir sortir au lycée. Au collège, ouais. Ouais, j'avais perdu mon carnet de correspondance, comme ça j'en avais un deuxième, et j'en avais un pour mes parents et un pour le lycée. Ouais. Ouais, c'est la même technique.
Comme tes parents sont en train d'écouter le podcast, voilà. Tu vas te faire tuer quand tu vas voir.
Non, mais il le savait. J'étais un vrai démon, en fait. Bon.
Wouhou.
Non, mais c'est vrai que Death Note, c'est sympa. J'attends de voir vraiment comment ça va se poursuivre. Et puis les dessins, on n'en a pas parlé, sont vraiment sympas. Il y a une bonne qualité graphique. C'est une ligne assez claire. Très, très peu de trames comparé à beaucoup de mangas. Mais un dessin clair, bien lisible, des personnages facilement identifiables. Mon seul regret, le look du démon qui est ridicule au possible.
Mais quand tu vois ses confrères, c'est peut-être pas le plus ridicule.
Ah ouais, non, mais alors là, franchement, le mec sur les démons, il aurait dû s'acheter un livre de design parce que mais on dirait Bozo, quoi.
Ouais, mais peut-être qu'il ressemble à ça.
Il est mort de rire, quoi. Ah, c'est le démon de la mort, ah, c'est Bozo. Non, franchement, pas top à ce niveau-là.
Bon. Passons à la suite. Je te laisse en parler, hein, parce que là, c'est un peu ton bébé. Hein.
Alors, oui.
Un petit retour dans l'enfance.
Là, on est dans du vrai rattrapage. L'intégrale volume 1 de Valérian et Laureline de Mézières et Christin chez Dargo. Et ça coûte DA10.
Donc sans doute moins que DA30 tout à l'heure.
Ça me surprendrait quand même. Non, il n'est pas très cher. Il est dans les 20 euros, en fait.
Ah, donc DA30 est moins.
Bon, j'en sais rien, leur code de prix, ça m'a toujours gonflé. Donc, Valérian et Laureline, on rentre vraiment dans de l'antique. C'est une BD qui date de la fin des années 60. Déjà, on va partir...
Qui paraissait chez Pilote à l'époque.
Dans Pilote. Déjà, on va partir sur un truc. Qu'est-ce que ça raconte ? Clairement, donc, Valérian est un... est un flic du futur qui peut voyager dans le temps pour aider le monde, en gros, hein, pour résumer très, très bêtement. Dans la première histoire, il rencontre Laureline, qui l'embauche comme flic du temps, et ils vont vivre plein d'aventures jusqu'à cette année, parce que le dernier tome de Valérian, le dernier fini, est sorti cette année. Les auteurs ont décidé d'arrêter, ce qui est une chose assez rare. Bon, ils ont arrêté après 40 ans, hein. Ils ont pris leur temps quand même. Mais ils ont décidé de clore leur série. L'édition de cette intégrale est très intéressante parce que déjà, il y a un petit chapitre écrit par Stan Barrett au départ. Donc Stan Barrett, c'est un spécialiste de la science-fiction, qui nous raconte l'origine de cette bande dessinée, le contexte particulier dans lequel elle est sortie, et pourquoi est-ce qu'elle est si intéressante. C'est vrai qu'en la regardant maintenant, c'est de la SF qui fait un peu vieillotte, hein, mais il faut voir qu'à l'époque, la bande dessinée de science-fiction était très très rare. La bande dessinée française de science-fiction, n'en parlons pas. On avait déjà des Flash Gordon, des trucs comme ça aux États-Unis, mais alors des gars qui allaient dans l'espace et qui voyageaient dans le temps en France, c'était pas trop le truc. Metal Hurlant n'était même pas encore sorti, il me semble, à ces débuts-là. Ça, c'est à vérifier. Parce que Metal Hurlant, là, la BD de SF, on en aura. Hein. Et on a donc dans Pilote cette BD qui sort et qui traite de sujets très variés. Alors, cette édition est intéressante parce qu'on a donc trois tomes qui sont mis dedans. Le premier tome, Les Mauvais Rêves, est sorti en 67 et a la particularité d'être paru en recueil individuel très tardivement en France. Parce que clairement, quand on le regarde maintenant, les qualités graphiques de cette histoire-là, ça a pris cher. C'est très naïf dans le trait, c'est pas super. Prenant. On sent aussi, ça on le verra aussi dans les tomes qui suivent, dans ce recueil, la dynamique des pages, le sens de la narration n'est pas top. On a plein de flèches qui sont là pour nous indiquer dans quel sens on doit lire les cases. Quelque chose que j'ai plus vu depuis un moment, surtout lisant beaucoup de BD américaines, où le sens de lecture est toujours super chiadé, super bien travaillé. Là, on a un peu ce que je dirais ces archaïsmes de la bande dessinée qui sont les flèches pour te dire « Hey, si tu es dans ce sens-là, c'est pas bien !» Surtout qu'à tous les coups, on se plante hein, quand on n'a pas l'habitude des flèches. Le deuxième tome donc est une histoire qui était parue, on va dire, en deux épisodes. C'est « La cité des eaux mouvantes », suivie de « Terre en flammes ». Qui est paru donc en individuel, mais dans une édition remaniée, pour que ça tienne dans un album, parce que sinon c'était trop gros. Ici, on a l'intégralité. Et enfin, le dernier tome, qui est... rappelle-moi le titre, s'il te plaît.
L'Empire des Mille Planètes.
L'Empire des Mille Planètes, qui lui est sorti en 71, il me semble.
Oui.
71. Qui poursuit. Et là, on voit vraiment la maturité dans le dessin qui arrive. Thio ? Qu'est-ce que tu en as trouvé ? Et donc, ouais, t'en as pensé quoi de particulier?
Donc, je l'ai lu très très récemment, c'est-à-dire il y a environ une heure, un peu plus d'une heure, on va dire, avant le podcast, parce que j'étais un petit peu à la bourre sur les lectures.
T'as peut-être pas cette nostalgie. Moi, je les avais lus la première fois très très jeune, donc j'ai ce côté nostalgique derrière. C'est pas ton cas.
Non, la Valérian, là, c'était pas du tout un truc que je disais. Ben, j'ai trouvé que c'était bon. Ça a vieilli, certes, mais je trouve que l'histoire. Enfin, déjà, j'ai lu les trois premières histoires donc, de l'intégrale qui sont sympathiques. Voilà, c'est un bon petit scénario, c'est assez bien mené. Bon, ça se lit facilement. Voilà, c'est pas. Je pense que j'ai pas la charge affective que toi tu as vis-à-vis de ça. Donc,
Les particularités qu'il pourrait y avoir, une des particularités de Valérian, mais qui n'apparaît que dans le troisième volume de ce recueil, c'est le côté multiethnique. On se retrouve dans des univers avec des créatures très variées, un bestiaire très très chargé, qui prendra beaucoup d'importance dans Valérian par la suite, et qui est vraiment très 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 prenant. On a une ambiance fantastique qui passe encore, je veux dire, le monde peut faire penser à ce qu'on trouve dans des films de SF récents. Il y a des clins d'œil qui sont faits à Star Wars. Star Wars aurait fait des clins d'œil, en tout cas c'est ce que l'intro de Stan Barrett dit, que même Star Wars aurait pompé des idées dans Valérian. Clairement, quand on se retrouve dans le dernier, dans l'Empire des Mille Planètes, on a l'impression d'être sur Dagobah. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Alors après, effectivement, la science-fiction se nourrit des idées des autres, l'histoire de voyage dans le temps, etc. Ça a déjà été trouvé dans des bouquins de SF bien avant. Mais moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est voilà, le dessin n'a pas si mal vieilli que ça, surtout dans les dernières histoires, les premiers, ça vieillit. Et c'est vraiment une bande dessinée qui a marqué son temps, qui a marqué une génération, qui moi m'a marqué, que j'ai relu avec plaisir. Et malgré les archaïsmes des premiers tomes...
Mais tu étais né en 68.
Oui. J'ai peut-être déjà lu presque l'intégrale en fait, parce que les derniers tomes sont sortis avec beaucoup d'écart. Bref, Valérian, l'intégrale, le tome 1, franchement très très bien. On parlera des tomes suivants dans les prochains podcasts, parce que je compte bien me les offrir.
D'accord, donc il faudrait que je les lise aussi.
Exactement.
Non, mais ça se lit facilement, vraiment, voilà. Moi, j'ai pas de. Pas d'a priori, un a priori négatif, je me suis dit, ah, c'est vieux et tout. Ouais. Ça va être... Mais bon, finalement, ça se dit quand même.
Il
y a
des archaïsmes, pendant ce temps, il neige, et là tu vois qu'il neige. Les Didascalies dans tous les sens, c'est vrai que c'était très verbeux, la bande dessinée de l'époque.
Ah, tiens à lire, là tu peux pas dire que là on te ment pas.
On
t'a pas volé sur le texte, il y en a.
Puis les dessins sont vraiment, sur l'Empire des Mille Planètes, sont vraiment agréables et ont bien
évolué.
Bien vécu.
Notre dernière bande dessinée du jour. Donc là, on est sur l'intégrale.
Notre intégrale.
Garulfo.
De Alain Erol. Non, c'est pas Alain, c'est l'autre.
Si, c'est Alain Erol.
Et Bruno Majorana. Ah oui, non, c'est que toi, tu dis Erolès.
Ouais, moi, je dis
Erolès.
Erolès,
Juan José Rip.
Attends, avec deux capés de crocs, ça passe.
Ouais, c'est vrai, avec deux capés de crocs, ça passe. Sur Garulfo. Ah non, c'est Garulfo, pardon. Sur Garulfo.
Garulfo, ça, non.
Bon. Que nous raconte. Alors, c'est d'intégrale. C'est un double intégrale. C'est une combo aujourd'hui. Un double intégrale combo shot. Cette intégrale est sortie en deux tomes.
Ouais.
Le tome 1 qui regroupe les deux premiers volumes.
Les deux premiers volumes.
Et le tome 2 qui reprend les quatre derniers, je crois. Il y en a quatre.
Il y en a quatre.
C'est ça. Il y en a quatre. Que nous raconte ce magnifique Garulfo?
Eh bien, dans le livre premier, donc, nous avons une gentille grenouille qui vit dans sa petite mare avec son copain, donc, le canard Flubert. Oh, il est gentil. Non, avec le Flubert, il est trop beau. Et donc, Garulfo a envie un petit peu de changer de vie. Alors, il se trouve avec une sorcière qui...
Parce qu'elle n'arrive pas à draguer la grenouille fille.
Il n'arrive pas à draguer la grenouille fille, donc il lui demande...
C'est un loser.
Ouais, c'est un loser. Ça. Et donc, le loser se retrouve finalement à être transformé en prince. Parce que donc, il est embrassé par une pouilleuse. Et donc, lui, il s'est dit qu'il était embrassé par une princesse. Il est en tenue de prince. Donc, il rentre au château et il demande de Céan à être marié avec elle. Ce faisant, on arrive à tout un tas d'histoires au début. avec donc justement la vraie princesse qui se fait un petit peu botter les fesses,
son vrai prétendant,
qui voilà, le roi, donc le père de la vraie princesse, qui se pose la question de se dire mais c'est qui cette pouilleuse, est-ce que c'est une enfant que j'ai oubliée, quelques ébats qui ne sont pas été certifiés,
enfin, une aventure de jeunesse,
voilà. Et donc voilà, ça c'est l'histoire du premier tome, qui est quand même drôle, sympathique. Oui. Et qui joue donc sur la naïveté donc de la petite grenouille qui se retrouve dans un système donc de royauté.
Donc on est dans la parodie du conte de fées, vraiment de la parodie avec un petit côté farce quand même, parce que l'homme qui botte le cul de la princesse, moi j'ai trouvé ça exceptionnel la première fois que je l'ai lu, la deuxième aussi, puis la troisième peut-être.
La troisième aussi. Puis le dragon à la fin fait aussi.
Oui, le dragon. Oui, parce que en plus, ce salaud de scénariste a eu la grande idée de trouver un enfoiré de bon dessinateur qui a un côté un petit peu réaliste, un petit côté gravure, je trouve, dans la façon de faire les décors.
Je l'ai pas déjà dit, non ?
C'était dans une autre version. Dans la façon de faire les décors, dans les détails, tout en ayant un trait qui est un petit peu caricatural, très humoristique sur les personnages principaux. On retrouve beaucoup d'éléments du conte de fées classique, hein, dans tous les sens, l'ogre, le chaboté.
L'ogre, c'est dans la deuxième histoire.
Ça arrive dans la deuxième histoire.
Et le chaboté s'appelle Félix.
Félix, le chat beauté. Et que nous raconte ce deuxième tome, donc, parce que le premier tome se suffit à lui-même. Donc si vous pouvez vous offrir le premier tome, qui regroupe deux volumes originaux. Et si vous aimez, achetez le suivant, qui en regroupe quatre. Si vous n'aimez pas, tant pis, vous passez à autre chose. Hein, mais franchement, vous n'avez pas de goût. Et que nous dit ce deuxième tome que les gens qui ont du goût vont s'offrir ?
Donc on commence par l'histoire donc d'un prince.
Un vrai prince
qui est réellement mesquin, odieux, atroce, et qui se retrouve transformé en grenouille.
Ah, plus classique déjà comme trame.
Donc là, notre chère grenouille, donc prince, ne comprend plus réellement pourquoi est-ce que tout le monde est méchant avec elle quand il est en grenouille, alors qu'avant, il pouvait se comporter comme un sagouin, ça ne posait pas de soucis.
Et qui était respecté.
Il était respecté. Et il se retrouve donc en dehors du château, si je me souviens bien, et la grenouille a pris la place du prince. Est-ce que j'ai été assez clair ?
Non.
Non. Donc, nous en étions.
On a en gros, si j'ai bien compris, c'est Gargoulfo et le prince qui est un con qui échangent de corps.
Ah ouais, vu comme ça, c'est vachement plus simple.
Ouais.
C'est ça. Et donc, on se retrouve avec un prince qui est une grenouille et le prince qui est devenu une grenouille. Ça fait la même phrase, c'est trop bien, ça veut rien dire.
Donc, et il leur arrive de mieux aventures. Et ce qui est intéressant, donc, c'est les deux vont devoir s'entraider.
Exactement, avec donc une grenouille qui est super naïve.
Qui ne comprend rien au monde des hommes.
Ah, excuse-moi. Oui, une grenouille dans un corps de prince qui ne comprend rien au monde des hommes, et un prince dans un corps de grenouille qui, lui, comprend toutes les subtilités de ce monde.
Mais qui ne peut pas interagir avec.
Et exactement, parce qu'une grenouille qui parle, ça ne se fait pas.
Et non.
Et donc, bon, de multiples rebondissements, parce qu'il faut que justement il soit embrassé par une princesse pour que le prince reprenne sa place, enfin...
C'est du grand n'importe quoi, et c'est très drôle. Franchement, c'est très drôle, moi j'ai adoré. En plus, il y a une histoire avec un ogre au milieu qui est super joli en fin de compte. Le passage sur l'ogre est très sympa. C'est beaucoup une histoire, on va parler intelligent, c'est une histoire sur la différence, s'accepter soi-même et être accepté par les autres. Pour fêter ça, nous allons nous lancer dans une opération toute neuve.
Et périlleuse.
Nous avons déjà fait un test précédemment qui a été un peu un échec. On retente le coup là.
Donc, c'est le technicien qui n'a pas suivi la pratique. Enfin bon.
Ouais, ça va, j'ai pas appuyé sur le bouton play tout à l'heure, sur le bouton enregistrer tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, c'est la deuxième édition. Hein. Ça fait déjà plus d'une heure qu'en fait on tourne en blouk, voilà. Mais qu'on n'enregistrait pas.
Ça fait déjà plus d'une heure qu'on tourne en blouk, mais qu'on n'enregistrait pas.
Bah, c'est pour ça que je suis fatigué.
Ça fait déjà plus de. Oui. Donc nous allons tenter de vous lire un petit passage, un petit extrait fantastique. Alors on va en couper des petits bouts parce que les passages dessinés forcément à la radio ça passe pas top. Mais parce que les dialogues sont croustillants, que Erol est un scénariste magique, qu'il est suivi par un majorana fantastique, mais ça sera à vous de vous débrouiller pour le lire. Hein. Franchement achetez-le, ne le volez pas, mais achetez-le, enfin débrouillez-vous. Es-tu prêt, Théo? Je vais me déplacer parce que forcément, là, c'est pas pratique. Et on va utiliser un micro pour deux, ce sera plus simple.
Alors, donc, en fait, nous nous retrouvons avec notre ami Garoulfo qui vient de tomber d'une fenêtre où on lui a très gentiment écrasé les doigts avec un marteau. C'est la...
La bonne femme qui suit la princesse.
Qui suit la princesse, voilà. Et donc, du coup,
la femme de chambre.
Voilà, c'est, oui, enfin, la méchante femme de chambre. Et donc, du coup, il vient de tomber sur la Royal Cap et donc il est coupable du crime de régicide. Il essaie de tuer un roi. Donc, ce qui fait que forcément, on le poursuit dans toute la ville. Et donc, la grenouille est en train donc, d'essayer justement d'aider un petit peu le prince en lui expliquant vas-y, va vers là parce que là, tu pourras te sauver. Tu vois.
Là, à droite, la cathédrale. Fonce. L'anneau. Attrape l'anneau. Asile!
Ah, flûte.
Vas-y, gueule avec moi!
Asile! Asile!
Asile! Ça va, ils ont compris.
Ah, on ne peut plus l'attraper alors. Comment non. va-t-on faire?
Le droit d'asile est-il applicable au régicide?
Alors là, vous me posez une colle, répond l'évêque.
Je vais en débattre avec mes collègues. Place. La princesse arrive, blablabla, ils discutent, etc.
Oui,
lâche pas la poignée, car effectivement, il tient la poignée de la porte.
Ce qui fait qu'il a le droit d'asile au Moyen-Âge.
Voilà, la question est de savoir, est-ce qu'il a le droit d'asile en tenant la poignée ou pas? Vous pourriez éviter de crier, s'il vous plaît.
Je crois que...
Nous pourrions nous baser sur le cas
d'Othon le Fou qui fit jurisprudence.
Certes, mais au Concile de Latran...
Celui de 1123?
Non, celui de 1179.
Ah, je crois que ce point donc fut si abordé dans une bulle de Grégoire VII.
Vous savez, si on devait dire toutes les bulles...
Là, à ce moment-là, donc Garoulfo, en fait, repart...
Allez, vas-y, force! Crac!
Ouais, toi, tu l'expliques comme ça, toi.
Ouais.
Ah, je crois qu'on a du neuf.
Écoutez-moi! Et là, le roi demande « Que voulez-vous ?» Et le prince répond « Un baiser ». Bref.
S'en suit tout un discours, donc justement, pour avoir un baiser ou pas,
voilà,
de la princesse.
Sauf qu'ils viennent de réfléchir.
Votre attention, je vous prie. Bon, voilà, nous avons tranché.
La porte sans la cathédrale qui va autour.
D'un point de vue de l'immunité ecclésiastique.
Ça compte pour du beurre. Et là, une volée de carreaux d'arbalète tente de...
Ça bat donc sur la porte et sur le pauvre Garoulfo qui est obligé de recourir et d'aller se cacher ailleurs.
Bref, c'est un très très grand moment de BD. Un moment de dialogue comme Erol en est très fort. Je vous recommande entre autres les dialogues des pirates dans
De
Cap et de Croc qui sont toujours magnifiques. Je vais reprendre ma place et nous allons pouvoir... poursuivre ce podcast, j'espère que ça aura marché, au pire on coupera,
oui.
Avec la rubrique
Axcop. Pardon, excuse-moi, la rubrique online, où nous allons parler de Axcop.
Donc, Axcop est une bande dessinée qui est écrite par Malakai Nicole, qui a 5 ans, et dessinée par Ethan Nicole, qui a 29 ans. Heureusement que c'est la deuxième, parce que tout à l'heure, je me suis fait un flanc monstrueux. Donc, la particularité de cette BD, donc, en dehors du fait qu'elle soit exclusivement online, c'est que c'est scénarisé par un gamin de 5 ans. Donc, en gros, Ethan Nicole est un dessinateur qui a un petit renom, qui a déjà été nominé pour un Eisner Award pour une de ses BD, donc c'est pas rien non plus. Puis un jour, en discutant avec son frangin, il s'est rendu compte que son frangin il racontait des histoires super drôles et s'est dit oh, on va faire une BD avec mon petit frère. Quoi. Donc vous imaginez, hein, à 24 ans d'écart, ce que ça peut donner. Et donc ils ont écrit Axcop. Alors les dessins sont chiadés, sont propres, sont très pros, il n'y a rien à dire. Et le scénario, bah. C'est l'histoire d'un gamin de 5 ans. C'est un grand n'importe quoi. Pour résumer, le première histoire d'Axcop, il y en a actuellement 9, je crois, disponibles sur le blog, avec des hors-série qui s'appellent Ask Axcop, c'est vachement dur à dire, où ils posent des questions à Axcop, genre, si tu devais choisir un dinosaure pour monture, lequel choisirais-tu? Oui, c'est que des conneries comme ça. Que ferais-tu si t'étais président? Enfin bon, c'est que des questions débiles. Et donc le premier épisode nous raconte l'histoire d'un flic qui tombe sur la hache de pompier parfaite. Et à partir de là, il décide de devenir Axcop. Et problème...
Il lui faut un acolyte.
Et il va lancer une campagne d'embauche. Et là, il rencontre un mec qui a une flûte. Et c'est Flûte-Cop. Et donc, avec Flûte-Cop, ils vont décider d'aller tuer des dinosaures.
Normal.
Donc, ils vont dans une lande lointaine pour aller tuer des dinosaures pour leur couper la tête. Avec la flûte, je sais pas comment il fait, mais bon, ils font aller.
Non, en fait, c'est parce que l'autre, il les amadoue avec
la flûte.
Ah oui,
ils amadouent avec la flûte.
Et comme ça, l'autre, il est avec la hache. Et je...
Ah, Axcop tue les dinosaures. Et donc, alors qu'ils sont en train de décider qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire
des
têtes de dinosaures, Axcop est en train de dire ah, on a qu'à les mettre sur des pics et on met une bombe à l'intérieur. On se rend compte que Flûte Cop a été touché par du sang de dinosaure. Et donc, il se transforme en Dinosaur Soldier. Voilà, vous avez le premier épisode résumé. C'est complètement barré. C'est énorme. On a l'impression que c'est un mec sous acide qui l'a fait. Mais en fait, non, c'est un gamin de 5 ans. Ce qui rend ça d'autant plus intéressant parce qu'il a fait ça en étant totalement dans la légalité et sans être sous l'emprise des drogues. Donc, si vous êtes drogué, arrêtez, redevenez un enfant, ce sera beaucoup plus simple. Oui, je sais, c'était beau. Merci Mathieu de verser une larme pour moi. Donc, je vous recommande absolument Axcop, qui est disponible sur le site axcop.com, dans le genre facile comme adresse, c'est pas compliqué. C'est grandiose, ça vaut le coup, c'est rapide à lire. Bon, c'est en anglais, c'est le seul gros défaut que je donnerais à cette bande dessinée. Promis, la prochaine fois, j'essaierai de faire un online sur une bande dessinée française. Oui ?
Non.
Ah, tu veux qu'on parle de Boulet ? Mais tout le monde parle de Boulet. Bon, voilà, je vous le dis vite fait, Boulet, c'est génial. Allez sur bouletcorp.com. Voilà, bon, hop, on peut passer à autre chose.
C'est français.
Oui, c'est vrai. Mais en plus, il a sorti une version anglaise du site, on va peut-être pouvoir en parler. Donc, nous arrivons à notre rubrique « Hors sujet ».
Hors sujet. Et là, pour être totalement hors sujet, et donc pour boucler la boucle, nous allons parler de Geek le Mag.
Geek le Mag, un magazine qui en est actuellement à son cinquième numéro. Septième peut-être. Zut, j'ai un trou. Enfin, qui est son dernier numéro sorti.
Le dernier numéro sorti qui était bien, avec voilà. Iron Man dessus.
Ouais, non, mais c'est en plus Iron Man 2.
Ouais.
Qui est un magazine. Qui parle de tout n'importe quoi. Alors quand j'ai commencé à m'acheter Geek le Mag, je me suis dit bah ça a l'air marrant, on va voir ce que ça donne. Enfin bon, curieux parce que j'ai acheté beaucoup de magazines qui ont tous cessé de paraître. Voilà, je pense à BDK et à PC Team qui étaient franchement des magazines superbes. Et en gros, j'aime bien lire les magazines. Je commence dedans et ça parle de tout n'importe quoi.
C'est surtout parce qu'il a une heure de trajet le matin pour aller au boulot, donc forcément il faut qu'il lise.
Voilà. Et j'ai été surpris par l'éclectivité. L'éclectisme, l'éclectition, par la variété de ce magazine. C'est pas mal la variété de ce magazine.
J'en ai fait quand j'étais jeune de l'éclectisme, mais j'ai arrêté, c'était trop fatigant.
Donc...
Je sens n'importe quoi comme mot.
Et donc, Geek le Mag, c'est plein de sujets. Bon, alors par contre, ce que j'ai vite remarqué, c'est que c'était composé en grande partie d'articles du magazine Geek the Magazine américain, traduit. Et le problème, c'est que quand on est un magazine qui traite de sujets très pointus, chacun dans leur domaine, la traduction n'en est que plus difficile. Et j'avais été un peu déçu que, j'avais repéré des erreurs de traduction phénoménales. Qui m'avait énormément déçu, un des scénaristes de Lost, je crois, le premier tome était sur Star Trek, donc c'était pareil, c'est un scénariste de Star Trek aussi, qui disait, pour moi, quand j'allais à New York, c'était un peu la planète oubliée. Bon, en gros, il faut savoir qu'une des grandes librairies de bande dessinée à New York s'appelle Forbidden Planet, le traducteur était complètement passé à côté, ce qui m'avait, je me suis dit, franchement, comme magazine, peut mieux faire. Mais donnons-lui sa chance.
Il y avait une erreur aussi sur Star Wars, non, il me semble.
Ouais, mais là, ça prête à débat. il y avait une erreur sur Star Wars, mais ça prête à débat. Bon. Ils avaient répondu dans le courrier des lecteurs.
Exactement.
Et puis, ils ont enchaîné. Et plus petit à petit, le contenu est devenu de plus en plus français, de plus en plus francophone.
De plus en plus intéressant.
Voilà, parce que bon, il faut savoir que le geek américain, c'est pas le geek français. Le geek français, par exemple, Star Trek, il connaît pas trop. Le geek français, DC Comics, ça lui dit pas grand-chose. Parce que les Green Lantern, franchement, en France, c'est difficilement arrivé jusqu'à chez nous. Tandis qu'aux États-Unis, ça cartonne, ces trucs-là. Donc, le fait d'y aller vraiment sur notre identité nationale, notre identité culturelle, nous pouvons lancer le débat sur le sujet. Voilà, et ben, il faudrait le faire en 8 bits. on est à fond dans les geeks là. Et donc ce magazine traite de beaucoup de choses. Musique, bande dessinée,
littérature, vidéo, film.
Et culture du néant.
Science aussi. Je crois que dans un numéro, on avait de la cuisine moléculaire.
Oui, les sciences sociales, il parle des réseaux sociaux.
Ouais, la dernière fois, on a eu, aussi, là, dans le dernier numéro, l'avant-dernier numéro, il y avait un truc sur les calculs quantiques.
Oui, un clown qui fait de la physique quantique.
Enfin bon, vraiment...
Des trucs captivants, vraiment super sympas et qui en plus donnent de bonnes idées. Par exemple, Mathieu s'est acheté apparemment un bouquin qui lui a beaucoup plu.
Qui était un bouquin donc, sur l'histoire des codes secrets au cours de l'histoire, donc tout ce qui était le cryptage donc, des messages de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et qui était très 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 bien fait et très intéressant. Je me suis régalé à le lire. Et qui explique plein de choses, même sur Internet aujourd'hui et sur certains problèmes que l'on pourrait rencontrer pour quelqu'un qui voudrait juste, par exemple, crypter ses transmissions, par exemple, pour éviter peut-être une certaine loi qui viserait à restreindre ses libertés. Je ne citerai personne, mais c'est une possibilité possible, justement, de cryptage.
Donc, reste donc un magazine très intéressant qui, en plus, a pas sa langue dans sa poche, n'hésite pas à traiter de sujets sortis vraiment du néant. Parfois, il te parle de trucs... franchement, on ne savait même pas que ça existait, quoi. J'ai découvert Chicken Robot.
Tout à fait.
Chicken Robot
de Seth Green.
De Seth Green. Bon, je connaissais Seth Green, j'avais beaucoup aimé ses apparitions dans Buffy.
Mais ça, je me rappelle, tu vois.
Voilà.
Parce que c'était le loup-garou.
Voilà, j'avais bien aimé ses apparitions aussi dans Austin Powers.
Oui. Là, un peu moins. Là, un peu moins. Là,
voilà,
là,
bref, un vrai geek. Et il a fait une série qui s'appelle Robot Chicken, que j'ai bien envie de voir pour le coup. Bref, on découvre plein de choses. Et puis, pour revenir dans le vif du sujet de ce podcast, il y a un petit passage BD qui s'appelle Feel Good Inc., qui est surtout très bien dessiné et qui a le gros défaut d'être très court, ce qui fait que d'un point de vue bande dessinée, enfin, on a l'impression que c'est une BD à suivre, mais qui essaye de faire BD à gag, et ça tombe un peu souvent à plat. Je trouve qu'à lire sur le long terme, ça doit être plus sympa quand même, avoir la totale.
Oui, il faut avoir la totale, je pense.
Voilà, parce que bon, il y a 3-4 planches, je crois, par numéro. C'est bien trouvé, les références geeks sont très nombreuses et très bien foutues, on se reconnaît quand même dedans. Mais bon, c'est pas l'intérêt principal du magazine, même si j'avoue que c'est un peu cette BD qui me l'a fait acheter aussi au début. Oui, je connaissais le dessinateur.
Si monsieur a ses entrées.
Oui, monsieur a ses entrées. Donc voilà, Geek le magazine, c'est du bimestriel, il me semble.
Ne me regarde pas, moi je ne les reçois qu'environ au bout de 6 mois, une fois que tu les as lus, en prenant bien ton temps. Donc, donc je ne sais pas.
Bref, ça sort régulièrement en kiosque et ça vaut le coup. Nous en avons fini avec ce podcast pour la seconde fois. je voulais d'abord continuer à remercier les gens qui nous écoutent, vous encourager à laisser des commentaires et des critiques sur iTunes.
Pas sur YouTube.
Non, pas sur YouTube parce qu'on n'y est pas.
On n'y est pas.
Pour une raison très simple, nous, ça nous donne de la visibilité. Ça nous permet de savoir ce que vous pensez de notre podcast. On a eu donc une trentaine de téléchargements du dernier podcast, ce qui est encourageant, ce qui fait plaisir. Maintenant, parmi ces 30 personnes, si une ou deux pouvaient nous dire ce qu'ils en pensaient, nos amis l'ont déjà fait. Hein. On n'a pas 30 amis, on en a beaucoup moins. Donc on sait qu'il y a des étrangers parmi nos auditeurs.
Peut-être que c'est tes parents qui téléchargent plusieurs fois.
Ouais, ils téléchargent plusieurs fois pour nous faire des... Oui, c'est possible. Bref, vous pouvez donc nous retrouver sur le blog, toujours. Vous pouvez nous retrouver sur, en ce qui me concerne, sur Twitter, où j'envoie des infos régulières sur tout ce que je croise en BD ou en quoi que ce soit d'intéressant. Donc c'est OneAPIE, OneAPIED, donc chez Twitter. On vous donne rendez-vous le mois prochain. Comme j'ai déjà reçu ma commande de BD, on vous annonce de très bonnes choses, dont par exemple The Goon,
The Boys, pour rester dans la série des The,
ouais.
Umbrella Academy,
le dernier Daredevil, qui est un hors-série, plutôt de Naoki Urasawa et Oazumu Tezuka.
Qui n'a rien à voir avec le chien de Mickey, hein,
oui,
on va dire.
Exactement.
Nous aurons donc sûrement Valérian, l'intégrale numéro 2.
Voilà. Si Thio trouve le courage de le lire jusqu'au bout rapidement. Peut-être du Spirou, enfin on verra. D'ici là, Nous avons le temps de voir venir. Nous vous souhaitons une bonne journée. Nous vous souhaitons d'être patients. Je sais que l'attente va être longue pour vous. Elle le sera d'autant plus pour nous. Au revoir.
Au revoir.
Ciao.